Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous arrivons à l'étude numéro 4 et le titre sera Percevoir Dieu. Il est dit dans le psaume 34, verset 9, « Sentez et voyez ». Ce fut Canon Holmes de l'Inde, qu'il y a plus de 30 ans, attira notre attention sur le caractère déductif de la foi de l'homme moyen. Pour la plupart des gens, Dieu est une déduction et non pas une réalité. Il se déduit d'évidence qu'il considère comme acceptable, mais il reste inconnu à l'homme en tant que personne. Dieu doit être, disent-ils, donc nous croyons qu'il est. D'autres ne sont même pas allés aussi loin. Ils le connaissent seulement par ouï-dire. Ils n'ont jamais, pour eux-mêmes, pris la peine de réfléchir sérieusement à la question, mais ils en ont entendu parler par d'autres et ont cru en Dieu comme, par exemple, comme à une idée qu'on a au fond de la tête pêle-mêle avec beaucoup d'autres pensées, et c'est là ce qui constitue toute leur croyance. Pour beaucoup d'autres, Dieu n'est qu'un idéal, un autre nom pour désigner la bonté. Donc s'il est un idéal, c'est un Dieu qui pourrait être bon. Il y a la beauté, il y a la vérité, ou bien encore, il peut représenter une certaine loi, ou même la vie, où il est cet élan créateur, va savoir, qui est à l'origine du phénomène de l'existence. C'est possible. Ces notions de Dieu sont nombreuses et variées, et ceux qui les soutiennent ont une chose en commun, c'est-à-dire ils ne connaissent vraiment pas Dieu, ils ne le connaissent pas par une expérience personnelle. La possibilité d'une relation intime avec Dieu ne leur est pas venu à l'esprit, jamais. Tout en admettant son existence, ils ne pensent pas à lui comme, par exemple, comme pouvant être connu au sens où nous connaissons les choses ou les gens. Les chrétiens, bien sûr, ils vont un peu plus loin que cela. Du moins en théorie. Leur croyance implique qu'ils croient en la personne de Dieu et qui plus est, on leur a appris à prier notre Père qui est aux cieux, etc. Personnalité et paternité porte en l'idée de la possibilité d'une relation étroite. Ceci dis-je est admis surtout en théorie. Cependant, même pour des millions de chrétiens, je dis bien des millions de chrétiens, surtout dans nos pays soi-disant éclairés. Dieu n'est pas plus réel qu'il ne l'est pour les non-chrétiens. Dieu n'est pas plus réel. Alors il traverse la vie en essayant d'aimer un idéal et de rester loyal envers ce qui n'est pour eux qu'un principe. On n'est pas vraiment irréligieux, ni vraiment païen, puisqu'on a vu que beaucoup d'entre nous ont assisté à une messe de Noël. Évidemment, je plaisante un peu, mais il y a du vrai. Au-dessus de toute cette impression brumeuse, apparaît la doctrine limpide des Saintes Écritures que on peut vraiment connaître Dieu par une expérience personnelle. Une personnalité aimante domine la Sainte Bible, marche parmi les arbres du jardin et exhale un doux parfum sur chaque scène où il manifeste sa présence. Une personne vraiment vivante est toujours là, toujours présente, parlant, plaidant, aimant, travaillant et se manifestant chaque fois que son peuple a la réceptivité nécessaire pour recevoir sa présence. La Sainte Bible tient pour un fait établi et évident que les hommes peuvent connaître Dieu à au moins le même degré d'intimité qu'ils connaissent toute autre personne ou chose qui entre dans le champ de leur expérience. Les termes qui expriment la connaissance de Dieu sont ceux-là même qu'on emploie pour désigner la connaissance des choses matérielles. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, nous dit David dans le psaume 34, verset 9. Notez aussi Saint Jean chapitre 10, verset 27, où il est dit que mes brebis entendent ma voix. Et encore Saint Matthieu, chapitre 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et nous ne citons ici que trois passages parmi les innombrables passages que contient la sainte parole de Dieu. Plus important encore que toute autre preuve, c'est le fait que le message intégral des Saintes Écritures conduit à cette croyance. Quelle en est la signification, sinon que nous avons dans notre cœur des organes au moyen desquels nous pouvons connaître Dieu, nous pouvons le connaître aussi certainement que nous connaissons les choses matérielles par l'usage de nos cinq sens. Nous connaissons le monde physique en exerçant les facultés qui nous ont été données à cet effet, et nous possédons des facultés spirituelles par lesquelles Si nous commençons à les utiliser et si nous obéissons à l'appel de l'Esprit Saint, eh bien nous pouvons connaître Dieu, nous pouvons le connaître et le monde spirituel. Nous admettons ici qu'une œuvre de salut doit d'abord, vous l'avez compris, doit d'abord s'accomplir dans le cœur de l'homme. Les facultés spirituelles d'un homme qui est non régénéré dorment dans sa nature. Elles sont inutilisées et totalement sans but. Et ceci à cause du péché. Ces facultés peuvent être ranimées à une vie active grâce à la régénération opérée par le Saint-Esprit. C'est l'une des bénédictions incommensurables qui nous vient de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. Mais pourquoi les rachetés de Dieu eux-mêmes connaissent-ils si peu la communion consciente et habituelle avec Dieu que semblent nous offrir pourtant les Saintes Écritures? Il faut chercher la réponse dans notre incrédulité chronique. La foi permet à nos sens spirituels de fonctionner. Le manque de foi, au contraire, provoque une insensibilité intérieure et une inhibition envers les choses spirituelles. Telle est donc la situation de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Pas besoin de preuves pour soutenir cette affirmation. Il n'y a qu'à bavarder avec le premier chrétien venu que nous rencontrons ou entrer dans la première église que nous trouvons ouverte pour découvrir toutes les preuves dont nous avons besoin. Un royaume spirituel s'étend autour de nous. Et ce royaume nous entoure, nous enveloppe. Il est tout entier à portée de notre vie intérieure, attendant que nous en prenions conscience. Dieu lui-même est ici et il attend notre réponse à sa présence. Ce monde éternel deviendra vivant pour nous au moment où nous commencerons à compter sur sa réalité. Je viens d'employer deux mots qu'il convient de définir, ou si une définition est impossible à donner, il faut au moins que je précise clairement ce que j'entends en les employant. Donc, je répète, ce sont surtout les réalités. Qu'est-ce que je veux dire par réalité? J'entends par là ce qui a une existence en dehors de toute idée que pourrait en avoir l'esprit humain et qui existerait même si aucune pensée n'en concevait l'idée. Ce qui est réel a une existence en soi et qui ne dépend pas de l'observateur pour être validé. Je sais qu'il y en a qui aiment à se moquer de l'idée de la réalité telle que la conçoit l'homme de la rue. De ce nombre sont évidemment les idéalistes qui tissent des preuves sans fin sur le fait que rien n'est réel en dehors de la pensée. Il y a aussi les relativistes qui aiment à montrer qu'il n'existe aucun point de repère fixe dans tout l'univers d'où l'on puisse mesurer une chose quelconque. Ils ont un sourire condescendant en nous regardant du haut de leur grandeur intellectuelle et à leur propre satisfaction. Le chrétien ne perd pas la face devant cette marque de mépris. Il peut aussi sourire à son tour, car il sait qu'il n'y en a qu'un soi, un seul qui soit absolu. Et cet absolu, c'est Dieu. Mais il sait aussi que ce Dieu absolu a fait le monde pour que l'homme en use. Et bien que rien ne soit fixe ou réel au dernier sens du terme, le sens que l'on applique à Dieu pour chaque entreprise de la vie humaine, il nous est permis d'agir comme si les choses étaient fixes et réelles. Et tout homme agit ainsi, à l'exception des malades mentaux. Vous savez, ces malheureux ont du mal à saisir la réalité des choses. Mais ils sont conséquents dans leur idée. Ils veulent vivre selon la réalité qu'ils conçoivent. Ils sont en quelque sorte honnêtes. Et c'est cette honnêteté même qu'il fait d'eux un problème social. Les idéalistes et les relativistes, eux, ne sont pas des malades mentaux. Ils prouvent qu'ils sont sains d'esprit et ils sont vivants selon les notions même de la réalité qu'ils rejettent en théorie et en comptant sur ces mêmes repères fixes dont pourtant ils démontrent la non-existence. Ils susciteraient beaucoup plus de respect pour leurs idées s'ils voulaient vivre selon elles. Mais ils sont, comment faut-il dire, ils ont en quelque sorte soin de ne pas le faire, car leur idée ne reste que dans leur tête et ils ne les appliquent pas à leur vie. Et pourtant, où la vie les touche, ils renoncent à leur théorie, tout simplement pour vivre comme les autres hommes. Le chrétien, quant à lui, est trop sincère pour jouer avec les idées elles-mêmes. Il ne prend pas plaisir à tisser des discours frivoles simplement pour épater la galerie. Tout ce qu'il croit se traduit par de la pratique et est ancré profondément dans sa vie. Par sa foi, il vit ou il meurt. Il reste debout ou il tombe, soit pour ce monde-ci, soit pour le monde à venir. Il se détourne de l'homme qui n'est pas sincère. L'homme simple est vraiment sincère et il sait que le monde est réel. Il le trouve là quand il s'éveille à la conscience et il sait qu'il n'a pas eu à le penser pour qu'il existe. Ce monde était bien ici à l'attendre quand il est né. Et il sait que quand il se préparera à quitter la terre, le monde sera là pour lui faire des adieux au moment du départ. Grâce à une profonde sagesse de la vie, il est plus sage que 1000 hommes qui doutent. Il se tient fermement sur la terre. Il sent le vent et il sent la pluie balayer son visage et il sait qu'ils sont réels. Il voit le soleil de jour et il voit les étoiles de nuit. Il voit l'éclair lumineux perçait le nuage noir. Il entend les bruits de la nature et les cris de joie et des souffrances des hommes. Et il sait que ces cris sont réels. Il se couche sur la terre fraîche la nuit et ne craint pas qu'elle devienne illusion ou qu'elle vienne à disparaître pendant son sommeil. Et le matin, le sol ferme sera là. Le ciel bleu au-dessus de lui sera là. Et les rochers et les arbres l'environneront, tout comme au moment où il a fermé les yeux la nuit précédente. Ainsi, il vit et se réjouit dans un monde bien réel. Il épouse le monde réel avec ses 5 sens. Il connaît toutes les choses qui sont nécessaires à son existence physique grâce aux facultés que Dieu lui a données en le créant et en le plaçant dans un monde comme celui dans lequel il vit. De par notre définition, Dieu aussi est absolument réel. Il est réel dans le sens absolu et définitif que, en dehors de lui, rien d'autre n'existe. Toute autre réalité dépend de la sienne. Dieu est la grande réalité. Il est le créateur de cette réalité inférieure et dépendante que constitue la somme des choses créées, et nous y compris. Dieu a une existence objective indépendamment de toutes les notions que nous pourrions avoir de lui. Le cœur qui adore ne crée pas son objet d'adoration. Il entre dans sa présence quand il s'éveille de son sommeil moral au matin de sa régénération. Un autre terme qu'il faut éclairer, c'est compter sur, à être sûr. Ce terme ne veut pas dire visualiser ou simplement imaginer quelque chose. L'imagination n'est pas du tout la foi. Les deux ne sont pas seulement différents, mais elles sont totalement opposées. L'imagination projette des images irréelles hors de l'esprit et cherche à y attacher quelques réalités. Or, la foi ne crée rien. Elle compte simplement sur ce qui est déjà là. Le monde spirituel et Dieu sont absolument réels. Nous pouvons compter sur eux avec autant d'assurance que nous pouvons compter sur le monde familier qui nous entoure. Les choses spirituelles sont là où nous devrions plutôt dire « elles sont ici », attirant notre attention et mettant notre foi au défi. L'ennemi sait que nous avons établi de mauvaises habitudes de pensée. Par habitude, nous pensons au monde visible comme étant réel et nous doutons de la réalité de tout autre monde. Nous ne nions pas l'existence du monde spirituel, mais nous doutons qu'il soit réel dans le sens littéral du terme. Le monde des sens sollicite notre attention jour et nuit pendant toute la durée de notre vie. Il est bruyant, insistant, et il se livre en spectacle. Il ne fait pas appel à notre foi, mais il est là, assaillant nos cinq sens et voulant qu'on l'accepte comme étant réel et final. Cependant, le péché a tellement obscurci les yeux de notre cœur que nous ne pouvons voir cette autre réalité qui est la cité de Dieu qui brille autour de nous. Le monde des sens triomphe. Le visible devient l'ennemi de l'invisible, le temporel de l'éternel. C'est la malédiction héritée par chacun des descendants de la race tragique de Adam. À la base de la véritable vie chrétienne se trouve la croyance en l'invisible. L'objet de la foi chrétienne est, en effet, une réalité invisible. Notre manière erronée de penser, qui est soumise à l'aveuglement de notre cœur de chair et à l'intrusion omniprésente des choses visibles, elle tend à établir une séparation entre le spirituel et le réel. Mais en réalité, une telle distinction n'existe pas. Le contraste se situe ailleurs, entre le réel et l'imaginataire, entre le spirituel et le matériel, entre le temporel et l'éternel, mais jamais entre le spirituel et le réel. Or, le spirituel est la réalité absolue. Si nous voulons nous élever vers les régions de lumière et de puissance dont nous avons les signes manifestes dans la sainte parole de vérité, nous devons briser la mauvaise habitude que nous avons de ne pas nous préoccuper du spirituel. Nous devons déplacer notre attention du visible à l'invisible. En effet, la plus grande réalité, c'est Dieu. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent avec diligence. Ça, c'est la base d'une vie de foi. De là, nous pouvons nous élever à des hauteurs illimitées. Vous croyez en Dieu, disait notre Seigneur Jésus-Christ, alors croyez aussi en moi. Sans la première croyance, il ne peut y en avoir de seconde. Si nous voulons vraiment suivre Dieu, nous devons chercher à vivre comme des extraterrestres, c'est-à-dire comme faisant partie d'un autre monde. Je dis ceci en sachant bien que les fils du monde se moquent parfois des chrétiens en leur reprochant de ne pas avoir les deux pieds sur terre. Qu'il en soit ainsi, chaque homme doit choisir son monde. Si nous, qui suivons Christ en toute connaissance de cause, si nous obéissons délibérément le royaume de Dieu comme notre sphère d'intérêt, croyez-moi, je ne vois pas pourquoi on nous ferait des objections. Si nous sommes perdants en faisant ce choix, la perte est la nôtre. Si nous y gagnons, nous ne volons rien à personne. Cet autre monde qui est un objet de dédain pour le monde et le sujet des chansons moqueuses de l'ivrogne. Wir gehen alle, alle in den Himmel, chantent les Bavarois à la fête de la bière. Wir gehen alle in den Himmel. Mais le but que nous avons soigneusement choisi, c'est l'objet de notre recherche la plus sainte. Cependant, nous devons éviter l'erreur courante qui consiste à repousser cet autre monde dans le futur. Il ne se situe pas dans l'avenir, mais il se situe dans le temps présent. Il est parallèle à notre monde physique et familier, et les portes entre les deux mondes communiquent. Mais, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection de Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est écrit dans Hébreux, au chapitre 12, versets 22 à 24. Toutes ces choses sont en contraste avec le mont que l'on peut toucher, et le son de la trompette et les mots exprimés à haute voix que l'on peut entendre. Ne pouvons-nous pas, à coup sûr, en tirer la conclusion suivante, mes chers amis? Tout comme les réalités matérielles du mont Sinaï ont pu être saisies par les sens physiques, de même, l'âme doit saisir la réalité spirituelle du mont Sinaïon, du mont de Sion. Et ceci, non par un tour de force, simplement de l'imagination, mais dans une totale réalité. L'âme a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ils sont peut-être faibles pour n'avoir pas servi depuis longtemps, mais le toucher régénérateur de Jésus-Christ les a maintenant rendus vivants et capables d'une vue beaucoup plus perçante et d'une audition encore plus sensible que jamais. Si nous commençons, chers amis, à regarder à Dieu, les choses de l'esprit prendront forme devant nos yeux intérieurs. L'obéissance à la parole du Christ nous apportera une révélation intime de la Trinité. Notez Saint Jean, chapitre 14, versets 21 et 23. Cela nous donnera une perception vive qui nous permettra même de voir Dieu selon la promesse qui a été faite à ceux qui ont le cœur pur. Une nouvelle conscience de Dieu nous saisira et nous commencerons à goûter, à entendre et à sentir intérieurement le Dieu qui est notre vie et notre tout. On pourra alors voir briller sans cesse la lumière qui venant dans le monde éclaire absolument tout homme, selon Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Au fur et à mesure que nos facultés s'aiguiseront et s'affermiront, Dieu deviendra de plus en plus pour nous le grand tout, et sa présence deviendra la gloire et l'émerveillement de nos vies. Chers amis, prions maintenant. Ô Dieu, vivifie toute puissance qui est en moi, afin que je ne puisse me saisir des choses éternelles. Ouvre-moi les yeux, afin que je puisse voir. Donne-moi une perception spirituelle aiguë. Rends-moi capable de te goûter et de savoir que tu es bon. Rends-moi le paradis plus réel que tout objet sur terre ne l'a jamais été. Amen. Amen. Et chers amis, maintenant, je voudrais vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné dans le cœur de vous donner. Premièrement, pour votre éducation personnelle, secondement, pour vous encourager tout simplement. Écoutez bien, c'est à la personne de Jésus-Christ, avant tout, qu'il vous faut vous attacher. Être fidèle, ce n'est pas seulement observer les commandements précis de sa parole écrite, c'est avant tout sentir intuitivement ce qu'il attend de vous en raison du commerce intime qui vous unit à lui et qui vous permet de le comprendre en tout. Et pourtant, même dans cette connaissance intuitive, vous ne pouvez parvenir à la vraie fidélité que en recevant la force qu'une authentique communion avec lui peut seule conférer. Si donc vous percevez intuitivement son moindre désir, et si dans le même temps vous recevez de Jésus la force de le réaliser, alors l'amour en vous bondira vers le but pour répondre à son attente. Êtes-vous prêt à l'entraînement et à la discipline nécessaires? Pensez aux arbres en hiver. Ils paraissent inertes et inutiles à ceux qui, par ailleurs, ne comprennent pas qu'en ce qui vous concerne, c'est votre enracinement en Jésus qui vous rend capable de soutenir les tempêtes et les rigueurs de la mauvaise saison. Pendant les longs mois d'épreuves, quand votre belle assurance, votre faculté d'aider et de protéger est remise en question, vous êtes en réalité à une dure école où l'on puise force et assurance nouvelle. Le temps où vous pourrez aider les autres viendra et vous aurez alors appris à ne pas tirer vanité de la beauté de votre feuillage et des bienfaits de l'ombre que vous projetez. Vous les offrirez à tous ceux qui en ont besoin, mais c'est à lui, à votre Seigneur, que vous en attirerez, oui, que vous attirerez et que, on peut dire, vous louerez sa gloire d'éternité en éternité. Au revoir pour l'instant et je vais vous mettre quelques chants d'un très lointain passé, figurez-vous 1952. J'étais un tout jeune homme quand j'avais enregistré cela à Londres, avec des possibilités qui étaient beaucoup moindres à ceux d'aujourd'hui, évidemment. Et la qualité a perdu beaucoup dans la netteté, c'est compréhensible. Chers amis, sachez que Dieu vous aime. Il vous aime, vraiment. Et de ce fait, il est de mon devoir de vous aimer de tout mon cœur. Et maintenant, je vous embrasse, je vous enlace tous avec tout l'amour agapé de Jésus-Christ et de Dieu le Père. Et je vous dis, soyez bénis. À demain matin pour la suite de cette série. Et j'ajoute, étant donné que ma voix a 90 ans passée, n'est plus du tout à comparer avec quand j'étais 30 ans de moins. Je suis malheureusement obligé, d'abord de beaucoup prier avant pour que Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit m'aident à prononcer les choses qui puisse quand même être audible sur le CD. Évidemment, c'est plus du tout la même chose que quand j'avais 60 ans. À 60 ans, j'étais un jeune homme. Chers amis, maintenant, je vais donc vous mettre quelque chose de ce lointain passé. Soyez bénis et souvenez-vous, je vous aime. Au revoir. Pray for me until
Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He met the needs of my heart. Shadows dispelling with joy and telling, he made all the darkness depart.
ever wondered why the Savior came from him to earth to die on a cross of shame? Have you ever sought to know why he paid the price? Why he did to Calvary go as the sinner's sacrifice? Never in a million years, if that could be, could we know the reason why he suffered on the cross for you and me? Willingly he died that day, died to take our sins away. But never in a million years could we understand such love. Understand why Jesus cared, why he became our friend and our sorrow shared. Oh, the secret will remain with God above, but we now can praise his name for the wonder of his love. Never in a million could be, could we know the reason why he suffered on the cross for you and me? Willingly he died that day, died to take our sins away. But never in a million years could we understand such love. No, never in a million years could we
life soon shall all pass away, but there is coming a judgment day. Some folks may toil for riches or fame, but I'd rather labor for his dear name. Only one life will soon done for Christ will to do more each day that I live. I'm sorry I only have one life to give.